merci beaucoup de l'invitation. Je trouve que votre thème est extrêmement intéressant, surtout à destination de jeunes chercheurs, qui est cette question de la coopération. Je vais faire un retour sur l'expérience. Hein. C'est, quand on demande à quelqu'un de faire un retour sur son parcours, c'est qu'on n'est pas loin de la retraite. Hein. C'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est plutôt de présenter un retour sur quelques expériences. Certaines plutôt heureuses, d'autres plutôt mitigées sur les conditions d'une coopération scientifique et surtout ce que ça produit en termes de dynamique de carrière, ce qui est aussi important parce que la coopération c'est plutôt sympathique comme principe, mais est-ce que c'est utile lorsqu'on construit une carrière et le milieu de la recherche universitaire est ultra compétitif, c'est vraiment l'application pure et simple du libéralisme dans toute sa splendeur, malgré cette théorie de la coopération scientifique. On est vraiment dans des stratégies de positionnement de carrière sur les thématiques, sur les réseaux, sur les lieux. Et vous allez voir que mon expérience, par exemple, n'est pas du tout ciblée sur l'international, ce qui est une grave lacune. Si je devais faire carrière aujourd'hui, je pense que mon ancrage uniquement national, voire territorial, et quelque chose qui serait préjudiciable sur le déroulement d'une carrière universitaire. Donc, trois éléments, je vais partager l'écran si j'y arrive. Hop, c'est bon, vous voyez le...
Oui, le PowerPoint, c'est bon. En cours de réception.
Ouais.
Parfait.
Voilà. Donc, ce retour sur un parcours de recherche, il n'a rien d'exemplaire, hein, dans le sens... Je pense que beaucoup de chercheurs pourraient témoigner de stratégies un peu similaires, de parcours, d'opportunités de carrière, etc. Il y a pourtant quelque chose de spécifique quand on travaille sur les questions environnementales, et je suis très heureux de voir le nombre de doctorants et doctorantes qui travaillent sur ces questions maintenant. Mais à l'époque, quand on commence à développer ces réflexions sur les questions environnementales, hein, je vous parle du début des années 90, les communautés scientifiques, notamment dans les sciences sociales, sont assez peu concernées par cette question. On commence à tâtonner en sciences politiques. Alors, entendons-nous bien, hein, qu'il y ait eu des travaux en sciences politiques sur la question environnementale, par exemple les travaux de Pierre Lascoum, mais on est dans des approches purement constructivistes hein, qui analysent une question, l'environnement, comme on pourrait analyser les questions de santé, mais on n'accorde pas une spécificité épistémologique à cette question-là. Donc c'est au tournant vraiment des milieux des années 90 qu'on commence à considérer l'environnement comme une question paradigmatique, qui suppose une réflexion épistémologique sur comment on construit un rapport à l'environnement, qui questionne aussi le statut rapport sujet-objet, hein, puisqu'il y a une question d'externalité par rapport aux questions environnementales qui est extrêmement intéressant à interroger, à mon sens. Donc ce contexte d'une faible posture institutionnelle des recherches en questions environnementales, en tout cas dans l'espace national français, c'est pas le cas de la recherche anglo-saxonne, hein, qui, dès le début des années 70, va produire des chaires, des revues spécialisées, des dynamiques collectives, par exemple, dans les grandes réunions internationales sur les questions de mobilisation scientifique. On voyait déjà, à l'international, ces questions environnementales se poser, notamment dans la philosophie, hein, les éthiques environnementales, l'histoire, etc. Et le tournant, la conversion entre guillemets environnementaliste de la recherche française, elle est vraiment assez construite sur le milieu des années 90. Et donc on voit apparaître une série de réflexions en histoire, en géographie, qui se formalisent au sens qui se constituent comme expression scientifique au tournant des années 2000, où là il y a une affirmation d'un certain nombre de chercheurs, Grégory Quenet en histoire, ou Guillaume Blanc en histoire, ou les géographes et Didier Chartier et Étienne Rodary, qui posent comme ça un certain nombre de jalons où on affirme la spécificité d'une réflexion environnementale sur sa discipline. Donc ce contexte-là, il est important parce que quand on commence à construire une réflexion avec des collègues sur ces questions-là, il y a peu de relais institutionnels, c'est-à-dire les financements ne sont pas extrêmement élevés. Il y a peu de réseaux, il y en a un que je présentais tout à l'heure mais qui disparaît assez rapidement. Donc, contrairement à cette effervescence environnementaliste qu'on connaît aujourd'hui, ce n'était pas exactement le cas à l'époque. Donc, je vais présenter simplement trois types d'expérimentation de coopération où on a tenté de valoriser à la fois une dimension vraiment scientifique, hein, comment on construit un rapport épistémologique à la question environnementale à travers une coopération interdisciplinaire, et puis comment finalement ça va à la fois aider à la constitution de communautés épistémiques de recherche, de réflexion, ça va rencontrer un certain intérêt de la part des réseaux institutionnels, ceux qui financent la recherche, hein, et ça c'est extrêmement important, je vais y revenir plusieurs fois. Il y a cette question, c'est pas simplement l'intérêt d'une question qui est pertinente en soi, c'est la question comment vous trouvez des financements pour la valoriser sur le plan institutionnel. Et après, il faut aussi construire des lieux d'animation pédagogique, ce qui est extrêmement important aussi sur cette dimension-là. Alors, premier exemple de coopération institutionnelle, c'est finalement, on voit bien les effets d'opportunité, c'est extrêmement important dans les thématiques de construction de recherche, hein. C'est les effets d'opportunité, c'est-à-dire il y a des fenêtres d'opportunité, comme on appelle ça en sciences politiques, c'est-à-dire un espace à un moment donné où une question peut se poser, et puis ça rencontre l'intérêt d'acteurs, alors des chercheurs, mais aussi des institutions, le CNRS, l'INRA, d'autres, hein, qui vont accompagner cette réflexion-là, et puis surtout, évidemment, le financement institutionnel qui accompagne ces questionnements et ces recherches. Et cette question du financement, elle est vraiment centrale, puisque c'est ce qui permet de constituer des communautés de recherche et de permettre la pérennité de ces communautés de recherche. Parce que vous pouvez avoir un chercheur qui va poser une question à un moment donné, qui est une question extrêmement importante, mais bon, cette question n'est ni relayée dans les instances académiques, ni relayée dans les instances institutionnelles qui vont pouvoir accompagner et développer ce type de recherche. Donc il faut bien qu'il y ait un accompagnement institutionnel qui prenne le risque théorique, qui prenne le risque financier, d'accompagner à la fois une recherche fondamentale, qui pose une série de questions, on ne sait pas sur quoi exactement ça va déboucher, et puis qui accompagne aussi les conditions de construction empirique de cette recherche. Pour bien avoir conscience que le financement des recherches en sciences sociales, c'est peanuts par rapport au moindre financement de recherches appliquées, etc. Je vais vous donner un exemple très parlant. Je présentais un colloque international qui portait sur les énergies du futur, et je présentais les résultats d'un programme de recherche que nous avions construit avec l'ADEME, le conseil régional des Hauts-de-France, parce qu'il ne fallait pas les Hauts-de-France à l'époque, où nous avions glorieusement obtenu 80 000 euros de financement, ouais, sur 3 ans. C'est vous dire, hein, les moyens financiers qui nous étaient dotés. Et à côté de moi, il y avait un monsieur qui représentait un consortium de recherche, c'est comme ça qu'il s'est présenté, sur les biocarburants. Okay. Et le type, il se marrait, enfin, il avait un grand sourire quand je présentais mon truc là, sur la sobriété énergétique. À la fin, il me pose juste une question, il me dit « Mais combien de financement vous avez pour ça ?» Et je lui dis « 80 000 euros. » Ok, donc lui, après, il présente son plan de recherche, etc. Et à la fin, moi, je lui pose une seule question, « Mais combien vous aviez d'argent pour faire ça ?» 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que dedans, il y avait Thales, il y avait les grandes compagnies pétrolières, il y avait les grandes compagnies agro-industrielles, il y avait l'ensemble des ministères de la sécurité de la plupart des États européens qui ont financé les capacités de développement d'une production d'énergie agricole, hein, eh bien, qui pouvait intéresser la souveraineté des États, etc. 5 milliards, 80 000 euros. Donc ça aussi, quand on réfléchit sur les coopérations institutionnelles, il faut bien avoir en proportion, hein, les différences de capacité de financement. Alors, le comité scientifique PEVS, le comité SEDD, Société Environnement et Développement Durable, émerge dans un cadre plus général qui est le programme Environnement, Vie et Société que le CNRS avait mis en place au tournant des années 90-2000. Et ce qui était intéressant dans ce programme, c'était que l'un des objectifs du programme PEVS, c'était de construire des communautés de recherche interdisciplinaires. Donc, qui concernait à la fois les sciences de l'homme et de la société et les sciences du vivant. mais aussi les sciences de la recherche astronomique, etc. Donc il y avait cette dimension coopérative extrêmement forte. Alors l'interdisciplinarité, ça fonctionnait qu'à un cas, comme toujours, hein, bien sûr. En général, l'interdisciplinarité, vous avez un gros programme de recherche de sciences dures, et puis vous avez un ou deux chercheurs en sciences sociales qui sont là pour donner quelques concepts de sens, hein, de valeur, etc. Enfin bref, on se retrouve dans un système de caution intellectuelle, de caution scientifique sur des programmes qui nous échappent. Là, c'était pas le cas. Honnêtement, dans ce programme, les sciences sociales avaient une place prépondérante par rapport aux sciences du vivant, pas en termes de financement de programme. Encore une fois, ça c'était important. Et donc, avec les collègues que Anne-Gaëlle a mentionné tout à l'heure, l'économiste Franck-Dominique Vivien, la géographe Tatiana Mixiard et l'historienne médiéviste Joëlle Murnouf, vous voyez une composition du comité d'animation extrêmement interdisciplinaire, notre objectif était d'amener des équipes de recherche qu'on finançait sur des fonds de recherche du CNRS à réfléchir sur la notion de crise environnementale. Et c'était extrêmement intéressant puisque le comité SEDD avait orienté et contraint la réflexion des chercheurs lorsqu'ils devaient restituer leurs travaux. C'était pas classiquement, si vous voulez, dans les programmes de recherche, chaque équipe présente ses résultats. Nous, on avait incité les équipes et ça a donné des résultats extrêmement intéressants qui sont contenus dans le bouquin qu'Anne-Gaëlle a présenté. L'idée, c'était vraiment d'amener à un questionnement, une confrontation des points de vue disciplinaires sur une question qui faisait sens dans ces communautés, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la notion de crise environnementale et comment finalement les sociétés s'organisent en coopération avec le vivant ou contre le vivant pour dépasser ces questions de crise environnementale. Et donc ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que nous étions dans une politique vraiment volontariste dans le fonctionnement de l'organisation des méthodes de recherche, avec des objectifs assez larges qui rejoignaient celui du PEBS, de structurer des communautés scientifiques dans le temps, c'est-à-dire pas simplement répondre de manière très opportuniste à des contrats de recherche. C'est assez étonnant de voir comment des doctorants ou des jeunes chercheurs, des postdocs, vont faire des sauts de puce sur des contrats de recherche qui n'ont pas forcément toujours à voir avec leurs propres orientations de recherche, mais des stratégies de financement comme ça qui fonctionnent bien. La deuxième chose, c'était l'idée que ce soit un incubateur d'idées, de concepts, de questionnements, c'est-à-dire qu'il fallait soumettre à la communauté de ces chercheurs un certain nombre de propositions théoriques sur lesquelles on leur demandait de se positionner. Et donc, il y avait comme ça la nécessité de proposer des concepts innovants, comme celui de la notion d'anthroposystème, qui en gros rejoint la notion d'anthropocène, qui était déjà un petit peu débattue dans les réseaux scientifiques, mais qui était plutôt ciblée sur l'idée que, autour de la notion de la continuité de la communauté de coévolution entre les systèmes sociaux et les systèmes naturels. Et donc, on voyait clairement l'idée d'une interpénétration des savoirs, des sciences sociales et des sciences du vivant. Et puis, l'idée, c'était aussi de s'appuyer sur beaucoup de programmations scientifiques. On a organisé pas mal de colloques, de communication scientifique. Enfin, bon, le travail classique de la recherche en sciences sociales. Et puis, le cadrage théorique, c'est la notion de crise, la notion de temporalité. Bon, je ne vais pas revenir sur ces questions-là. Mais là aussi, vous voyez comment l'idée, c'était de ne pas laisser les communautés scientifiques financées ronronner sur leurs propres outils ou acquis. Vous avez, en tant que doctorant et doctorante, la capacité de voir que dans certains laboratoires de recherche, eh bien, c'est ce qu'on appelle souvent la théorie du lampadaire. Voilà, on cherche autour de là où il y a de la lumière parce que ça fonctionne. Et finalement, on a tendance un peu à reproduire des mécaniques de recherche. Alors, c'est facile pour la publication parce que c'est ce qui est attendu. Et donc, on a une capacité de facilement placer ses papiers. C'est plus intéressant aussi parfois de soulever un certain nombre de concepts, d'éléments de réflexion, et puis d'amener une communauté scientifique à se poser une série de questions sur le temps long. Alors, le souci, c'est que ces positionnements théoriques, on fait face à des difficultés institutionnelles liées vraiment à la fonctionnement des politiques scientifiques. Et ça, c'est extrêmement important de bien saisir ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui échappent aux chercheurs. C'est vraiment une difficulté structurelle dans la construction de la recherche scientifique. Ce n'est pas propre à la France. Hein. C'est-à-dire que les financeurs, par l'effet de la contractualisation, par l'effet des appels d'offres, par l'effet des politiques de regroupement des questions de recherche, par exemple le rôle prépondérant de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui dicte les intentions de recherche, qui labellise par les processus de sélection interne les recherches qui sont propices à un financement, etc. Et donc, il faut toujours s'interroger sur l'effet de standardisation produit par la contractualisation financière de la recherche. Et ça, c'est une vraie question. Hein. Comment, finalement, les communautés de chercheurs produisent elles-mêmes leurs propres questionnements scientifiques? Ça, on peut le faire, mais à condition qu'on réussisse à les financer. Et ça, c'est une vraie difficulté. Parce que quand vous voulez construire une recherche qui fait sens sur le plan de la qualité de sa pertinence scientifique, eh bien, il faut un certain nombre de moyens pour continuer à produire des données, par exemple, à constituer des communautés de recherche, des coopérations internationales. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et cet argent, eh bien, c'est pas le CNRS, on voit bien que ses crédits s'appauvrissent. Le ministère de l'écologie, Anne-Gaëlle mentionnait, par exemple, le travail que j'ai mené en tant que directeur du programme ITECOP, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut bien voir que il y avait 14 programmes financés par le ministère de l'écologie au début des années 90, 14 programmes comme ITECOP, vous en aviez 13 autres si vous voulez, et aujourd'hui il n'y en a plus qu'un, c'est ITECOP. Alors, c'est pas parce que je l'ai dirigé qu'il a fonctionné, c'est parce que nous on travaille sur les infrastructures de transport et ça a intéressé les entreprises privées. Et donc, nous sommes passés d'un financement public à un financement partenariat public-privé. Et vous voyez, les autres programmes du ministère de l'écologie qui concernaient, par exemple, simplement les questions de concertation et de participation, ça n'intéresse pas le secteur privé. Et donc, eux, ils ont perdu toute source de financement. Et donc, on a eu une vraie question dans le comité scientifique des COP, c'est est-ce qu'on ouvre nos financements à la recherche privée? Est-ce que la recherche publique doit-elle être financée par la recherche privée? Ben, je peux vous assurer que ça a soulevé d'énormes débats. Et la question, c'était comment on garantissait l'indépendance de la recherche scientifique par rapport à un financement privé. Eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple parce que les entrepreneurs, ils veulent un retour sur investissement immédiat, ils veulent des outils, ils veulent des livrables, enfin, ils veulent de l'applicable. Et quand vous travaillez, par exemple, sur les infrastructures et le rapport à la biodiversité, et que l'une des conclusions d'un rapport de recherche, c'est de dire qu'il faut limiter le développement de l'emprise des infrastructures, bah ça ne plaît pas à un certain nombre de nos financeurs, qui eux voudraient bien qu'on produise des rapports qui disent qu'on peut tout à fait, dans une belle pacification générale, hein, un consensus greenwashing bien senti, qui est entre parenthèses une partie de celui de la recherche scientifique actuellement, de produire une réflexion sur la communauté partagée de vues entre les financeurs privés, Vinci et compagnie, et la biodiversité des crapauds, par exemple. Donc, on voit bien cette difficulté de confrontation. Or, dès lors que les crédits de financement de recherche s'appauvrissent, eh bien, vous voyez, c'est aussi une question de l'indépendance de la question de la recherche qui se produit. La deuxième chose, c'est la place des SHS dans ces dispositifs et des institutions. Il faut bien avoir conscience que les SHS sont en situation de sous-représentation systématique dans toutes les instances de décision institutionnelle. Tout simplement parce que nos légions sont moins nombreuses. Je vous donne un exemple, à AgroParisTech, nous ne sommes que deux chercheurs, enseignants-chercheurs en sciences politiques, sur une communauté de plus de 450 enseignants-chercheurs. Deux. Okay ? Il y a trois sociologues. Voilà. Donc ça veut dire que dès qu'on parle des politiques agricoles, alors tout le monde y va de son couplet de gna gna gna, l'agriculture, gna gna gna, le souci de l'environnement, gna gna gna, grave problème, le réchauffement climatique, etc. Mais comme vous voyez qu'une des principales orientations maintenant d'AgroParisTech, c'est l'agriculture connectée, et que vous, en tant que politiste, vous dites, mais attendez, c'est une aberration de développer des stratégies de transfert de l'agriculture vers l'agriculture connectée parce que c'est accroître la charge des gaz à effet de serre liés au réseau numérique, etc. Eh bien, vous voyez, vous ne pesez pas dans le débat institutionnel interne. Et donc, la question, c'est comment on maintient cette interdisciplinarité large, c'est vraiment très compliqué techniquement de la maintenir. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, hein, les choses soient très claires, parce que maintenant, dans beaucoup de programmes institutionnels, les financements sont aussi conditionnés à cette interdisciplinarité. Mais encore une fois, ce n'est pas une interdisciplinarité en équité, c'est-à-dire 50% de sciences humaines et 50% des sciences sociales. Et encore, faut-il interroger quelles sciences sociales sont mobilisées, si dans des programmes, par exemple, quand j'ai fait l'expertise des contrats de recherche à la MRT, j'étais frappé de voir que la plupart des programmes qui, en tout cas dans l'année où moi j'ai fait ce travail d'expertise, les programmes de recherche scientifique qui étaient en coopération interdisciplinaire, eh bien, c'était plutôt des programmes qui valorisaient une économie orthodoxe. Okay, des modèles mathématiques sur etc. Mais par contre, les hétérodoxes, c'était un petit peu plus compliqué à financer leur contre-proposition de recherche. Alors, deuxième exemple, alors ça c'est un truc qu'il ne faut pas faire parce que je ne sais pas du tout comment fonctionne cette animation-là. C'est le réseau territoire et développement durable. Effectivement, c'est un réseau qu'on a mis en place, mais dans une coopération interpersonnelle, c'est vraiment important, hein. C'est ce qu'on appelle des réseaux d'amitié, hein, tout simplement, avec Bertrand Zundo, d'autres chercheurs du territoire de la région Nord-Pas-de-Calais, tout simplement parce qu'on avait un intérêt, une réflexion théorique, politique, au sens de la place de l'environnement dans l'espace de la négociation institutionnelle locale, voire même militante, ce qui était mon cas, ce qui n'était pas nécessairement le cas de tous les chercheurs, hein, ça faut être clair, de réfléchir sur finalement quelle est la place de l'environnement dans les politiques territoriales locales. Et donc, on était atomisés comme chercheurs, hein, chacun dans son petit labo, etc. Et on a eu la possibilité finalement de produire des réflexions de collaboration interlabo, interfac, grâce à la Maison des sciences sociales, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais qui était une espèce d'incubateur de recherche et d'innovation. Et ça, c'est extrêmement aussi important que les laboratoires, que les lieux de coopération scientifique comme les maisons des sciences sociales jouent ce rôle d'intermédiaire, jouent ce rôle d'intercesseur entre voilà, un chercheur isolé dans son coin qui a une idée, qui peut être une idée intéressante, mais qui ne bénéficie pas d'environnement institutionnel suffisamment large dans son laboratoire. Et c'est ce travail de mutualisation qui est opéré par ces médiateurs. Et ces instances de médiation sont vraiment des lieux extrêmement importants. Et j'invite vraiment les doctorants et les doctorantes, lorsqu'il y a des élections internes à ces instances, de vous y présenter, parce que c'est des lieux vraiment importants où il se passe beaucoup de choses. Ce sont des lieux aussi de financement, de recherche, qui sont extrêmement intéressants. Bon, bref. Et donc, on a constitué le réseau, je ne vais pas raconter toute l'histoire. Simplement, il y a eu des effets, là aussi, d'opportunités institutionnelles. C'est-à-dire que le développement durable devenait un peu à la mode, pour le dire clairement. Et on a vu apparaître des possibilités de financement assez fortes. À l'époque, c'était relativement facile de se faire financer des programmes autour de la notion de développement durable. Et donc, on a constitué des programmes de recherche qui vont intéresser les collectivités territoriales, les opérateurs parapublics, hein, l'ATM, etc., le ministère de l'écologie, le ministère de l'industrie, etc., qui étaient intéressés par cette réflexion qui était très happy few à l'époque, hein, du développement durable. D'autant plus que cette question du développement durable était tellement euphémisée dans ses propositions, c'était pas la théorie de la décroissance, si vous voulez, que c'était relativement aisé de dire qu'on était dans des stratégies de promotion d'une vision consensuelle des transformations des politiques publiques. Et donc, ça a joué un rôle important. Et deuxième fonctionnement aussi, ça a été un instrument de valorisation de carrière individuelle pour pas mal de chercheurs, qui se sont engouffrés pour des raisons, pour certains d'entre eux, purement d'opportunités stratégiques. Je vous invite à lire, par exemple, les très très belles pages d'un chercheur qui s'appelle Jérôme Baluy, qui a fait sa thèse sur la question de l'écologie à un moment donné. Et dans sa HDR, c'est la HDR que je vous invite à lire, de Jérôme Baluy, V-A-2-L-U-Y, Jérôme Baluy dit expressément « Moi, j'en ai rien à foutre des questions d'écologie, d'environnement, ce qui m'intéresse, c'est les questions d'immigration, mais J'ai eu l'opportunité d'avoir un financement de recherche sur une question qui était à la fois porteuse et relativement facile à traiter, les questions de développement durable. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus, mais franchement, c'est strictement des effets d'opportunité de recherche. Et il explique ça de manière épistémologique beaucoup plus intéressante que la courte présentation que je viens d'en faire. Et puis le niveau qui a facilité aussi le développement de ce réseau, c'était sur le fait qu'on a pu aussi constituer progressivement des cours en lien avec ces questions du développement durable, des cours spécialisés qui ont facilité aussi des coopérations entre les différentes facs. Alors ça a donné lieu aussi à une activité scientifique intense, hein, on a créé des colloques, on a créé un séminaire hein, qui a duré sur une dizaine d'années, où on a eu entre 10 personnes présentes au séminaire jusqu'à 200 personnes. Enfin, ça dépendait des intervenants, des thèmes, etc. On a constitué des colloques aussi. Le colloque, par exemple, institué le développement durable que j'ai construit. Alors, je ne vous ai pas simplement mis cette affiche parce que je suis à l'origine du colloque. C'est simplement parce que y a une petite touche, un petit clin d'œil dans cette affiche, je vous laisse la trouver le temps que je finisse mon intervention sur cette diapo, puis je reviendrai un peu sur ce clin d'œil. Et donc, il y avait un cadrage qui était très, très intéressant sur la coopération scientifique dans le réseau et qui a émergé dès le début de la structuration du réseau. Il y avait l'idée qu'il fallait qu'on puisse avoir une réelle approche interdisciplinaire sur une question qui émergeait, sur laquelle nous n'avions pas de construction théorique extrêmement élaborée. La question du développement durable interpellait les fonds disciplinaires de chacun. Il fallait qu'il y ait une collaboration extra-universitaire. C'est pour ça que si vous allez voir sur le site de la revue, hein, il y a un comité d'orientation qui est ouvert à des professionnels, des gens de l'ADEME, des gens de cabinets de conseil, etc. Et ça, cette dimension était extrêmement importante. Et puis, surtout, nous avons refusé de jouer les hiérarchies disciplinaires universitaires. C'est-à-dire que dans l'organisation, le fonctionnement du comité du réseau de développement durable des territoires, il n'y avait pas de hiérarchie de statut. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons fait entrer en équivalence de traitement, de prise de parole, de prise de décision, des professeurs, des maîtres de compte et des doctorants ou doctorantes. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça a donné l'opportunité de développer des axes, des animations, des programmes scientifiques qui étaient portés par des jeunes chercheurs. Et dans la revue de développement durable des territoires, dans le comité de rédaction, il y a aussi des doctorants et des doctorantes qui ont des responsabilités équivalentes à des chercheurs confirmés. Ce qui nous a été reproché, hein, d'ailleurs, dans les stratégies d'évaluation pour noter la revue, on nous a dit « bah oui, mais quand même, il y a des doctorants et des doctorantes qui sont glissés dans le comité de rédaction, il faudrait faire un peu le ménage ». Moi, j'ai toujours considéré, et Bertrand aussi, que ces logiques disciplinaires de hiérarchie étaient vraiment un modèle académique. La plupart du temps, on a des opportunités de carrière, ça ne veut pas dire que vous avez forcément des opportunités d'idées hein, et de stratégies de développement de réflexion. Ça, c'était la première chose. Donc, créer des communautés de débat ouvertes entre chercheurs de disciplines différentes et de statuts de différentes disciplines. La deuxième chose, c'est sur les problématiques. J'y reviens pas, c'est les problématiques de l'époque hein, qui ont structuré la réflexion, qui ont évolué progressivement par rapport à ça. Et puis, les terrains aussi, qui étaient surtout des terrains à zone à forte contrainte écologique, territoire d'ancienne industrialisation en reconversion. En gros, c'est exactement les problématiques que vous pouvez retrouver dans beaucoup de terrains, par exemple de Marseille. Alors, donc la petite imagerie là, c'est que quand j'ai demandé au copain de faire l'iconographie de l'affiche, c'était l'idée de la boîte à outils du développement durable, et je lui avais demandé de rajouter le marteau et la faucille. Ils n'ont rien à faire dans une boîte à outils, la faucille, hein, il n'y a jamais eu de faucille dans une boîte à outils. Et c'est assez rigolo, il n'y a qu'un chercheur qui a vu ce caractère anachronique. Je ne suis pas du tout d'accointance avec le marxisme, hein, mais ça me faisait marrer. C'est mon ami Olivier Petit, un économiste fabuleux, qui l'a remarqué. Alors, la coopération scientifique, c'est aussi la revue Développement durable des territoires qui fête ses 20 ans déjà, où nous avions aussi construit l'idée d'une ouverture des questionnements. L'idée, ce n'était pas de simplement valoriser les contenus de recherche, mais c'était aussi de permettre une expression de thématiques, etc. Bon, de fait, comme toutes les revues, hein, on a tendance un peu à produire une réflexion scientifique établie, parce que c'est ce qui construit aussi les critères de validation scientifique. Je passe, hein, et maintenant, le volet plus intéressant, à mon avis, c'est-à-dire que vous pouvez, en tant que chercheur, vous poser des questions pertinentes, encore faut-il créer des communautés de recherche scientifique. Et ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué parce que lorsque vous n'avez ni lieu d'enseignement, ni lieu de légitimation institutionnelle d'un certain nombre de recherches, que vous n'avez pas d'espace de formation à la recherche. Anne-Gaëlle est effectivement passée par ce master génial de gouvernance de la transition écologie et société. Il n'est pas génial en soi, mais là aussi, il est le résultat d'une coopération interdisciplinaire avec nos amis écologues. C'est-à-dire que il y a un tiers de formation en écologie, un tiers de formation en Sciences Po à peu près, et un tiers de formation en d'autres disciplines scientifiques de sciences sociales. Donc ce qui est vraiment important, c'est que lorsque vous voulez réfléchir sur les questions environnementales, vous pouvez appeler à l'interdisciplinarité dans la communauté des chercheurs, mais il faut aussi que dans la formation des étudiants et des étudiantes, on ait la possibilité de valoriser cette dimension interdisciplinaire. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, par exemple, dans les différents espaces de formation que j'ai pu être amené à construire avec d'autres collègues, par exemple, dans les Sciences Po, à Sciences Po Lille, dans lesquelles j'ai créé deux formations spécialisées sur ces questions dans l'environnement et le développement durable, vous n'aviez pas de collègues écologistes, vous n'aviez pas de collègues de sciences du vivant qui pouvaient intervenir dans ces formations-là. Il fallait donc aller les chercher dans d'autres universités, à condition que vous ayez en amont établi des coopérations scientifiques qui passent sens. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire intervenir des écologues pour faire intervenir des écologues, il fallait que ces écologues aient aussi une communauté de réflexion partagée, par exemple, en tout cas dans la gouvernance, le master de gouvernance, c'était l'idée de travailler sur la question de la durabilité forte. Hein. Le capital naturel n'est pas substituable ni au capital financier, ni au capital technique. Donc on voit bien que cette question-là, d'une communauté de réflexion qui se questionne sur le même objet et qui va produire académique, une formation académique, eh ben, c'est pas évident à élaborer, surtout quand vous avez des collègues assez sceptiques par rapport à ça. Je vous donne l'exemple simplement du projet de ESS, qui tient les fautes. En 99, je dépose un projet au conseil d'administration de la faculté de droit de Lille 2, dans lequel je suis membre. À l'époque, le doyen, c'est le directeur de thèse qui m'avait encadré, Christian-Marie Vallon-Leduc. Donc je me dis, bon, je vais proposer un DESS. Un DESS, c'est ce qu'on appelait un master pro de l'époque, autour des politiques de l'environnement, où déjà la question, finalement, des effets des crises environnementales sur la construction de la décision publique était posée, notamment avec une forte composante juridique. Bon, j'arrive, je dépose le projet, mais vraiment serein, en me disant, ouais, je bénéficie d'un environnement institutionnel favorable, je suis membre du comité, le doyen va me soutenir, etc. Patatras. Aucun soutien. Les collègues juristes considèrent que c'est pas une faille de droit de porter cette chose-là. Et le doyen conclut les débats en disant « Ah, Villalba, l'écolo, il nous fera toujours bien marrer. » Voilà. C'était en 99. Alors, ça veut dire que je n'ai pas assez d'assises institutionnelles pour peser sur l'orientation du CA. Et ça, c'est extrêmement important. Indépendamment de l'intérêt d'un projet, eh bien, il faut le construire, il faut le renforcer pour le légitimer. Et là, tout simplement, j'ai pas fait... le taf, hein. Je suis pas allé faire le tour des collègues pour les convaincre de l'utilité, de la pertinence de ce projet, etc. Ensuite, eh bien, quand vous créez un master, ben, faut le financer, c'est-à-dire qu'il faut trouver aussi des financements d'accompagnement, et ça c'est aussi compliqué, hein. Les institutions ne sont pas toujours destinées à produire un financement par rapport à ça. Il faut aussi les légitimer sur le plan institutionnel. Vous avez entendu l'appel à la désertion d'un certain nombre d'étudiants de la Groupe ParisTech. Bah, il se trouve que la moitié de ces étudiants provenaient de l'autre formation qu'on encadre avec les collègues de la Groupe ParisTech, et que nous sommes un peu dans le collimateur actuellement de la direction de la Groupe ParisTech qui ne veut plus d'exit de formation militante. Par contre, vous pouvez sans arrêt former des gens pour l'agro-business. Ça, c'est pas du militantisme, hein, bien évidemment, c'est l'état de la réalité objective du monde. Donc, conclusion, à travers ce parcours de recherche, hein, ce qui est important, c'est le lien entre le bricolage institutionnel, et là, je vous renvoie un livre fabuleux de Howard Baker, hein, sur l'efficience du métier de la recherche, qui montre que la recherche, c'est pas simplement le monde de l'énonciation des idées, c'est aussi la capacité, finalement, à faire reconnaître ces idées dans le milieu académique, dans le milieu de financement de la recherche, dans le milieu de la valorisation scientifique. On sait bien que dans les revues, ne sont publiés que les articles qui sont attendus. Et lorsque vous proposez un article qui est trop dissonant par rapport à la communauté de vue des articles, eh bien, c'est un petit peu compliqué parfois à valoriser. Par expérience, hein, je sais que dans le travail des référés, c'est toujours intéressant de voir que lorsqu'une proposition, notamment de jeunes chercheurs, sort du cadre convenu d'une discipline, ben, c'est assez compliqué de valoriser la pertinence d'une proposition qui est comme ça un peu détonnant. Donc c'est comment finalement, il y a trois dimensions importantes, hein, comment on interroge les constructions d'une structuration et sa pérennité. Ben là, il y a vraiment du contexte et du hasard, hein, très honnêtement. Le réseau développement durable et territoire, c'est vraiment un réseau qui fonctionne aussi par un effet de convivialité interne. Très honnêtement, si le réseau des DT dure depuis tout ce temps, c'est qu'on a plaisir à se retrouver, à se questionner, et que cet espace libre de questionnement permet d'accompagner les idées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'autorité. Quand un jeune chercheur propose un truc, on n'est pas là sur le « oh bah, oh, tu sais, on l'a déjà vu, gna 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 », enfin vous voyez les effets d'autorité, ou alors « ce n'est pas pertinent parce que j'ai décidé que ça n'était pas pertinent ». Et donc ça a contribué à alimenter la machine à idées, à élargir les thématiques de recherche, à renouveler les contributions théoriques, etc. Mais c'est aussi un hasard, c'est-à-dire que il faut que les jeunes chercheurs s'investissent, il faut qu'ils trouvent aussi un sens dans cette chose-là. En général, il y a un sens, c'est l'utilité qu'on va avoir à valoriser le fait qu'on fait partie d'un comité de rédaction d'une revue. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs, hein, qui ont travaillé avec nous dans le réseau développement durable des territoires, puis une fois qu'ils sont installés dans la carrière, on ne les voit plus jamais. Bon, bah, ça, c'est aussi le hasard et le contexte. C'est aussi interroger les limites institutionnelles et programmatiques. Là, vraiment, j'insiste sur les questions de la priorisation des financements de la recherche publique, sur lequel il y a une vraie question à avoir. Et si vous faites un peu d'épistémologie des sciences sur les mouvements de lutte pour l'autonomisation de la recherche scientifique, il y a constamment cette question qui revient, donnez-nous des moyens pour travailler en autonomie. Et puis, enfin, c'est interroger les conditions de développement de ces recherches. Comment on peut contribuer constamment à innover. Et dans tous ces espaces-là, c'est vraiment la question de l'autonomie de l'acteur qui est importante, c'est-à-dire comment, malgré les contraintes institutionnelles, on arrive à introduire des effets de perturbation dans le fonctionnement des recherches. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Ça, c'est lié aussi aux opportunités, aux stratégies, aux reconnaissances institutionnelles, etc. Voilà quelques éléments de retour sur ces expérimentations. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup de votre attention et désolé encore une fois d'être à distance. Ça aurait été plus pratique d'être avec vous pour échanger. Merci.
Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Je pense que ça nous a donné plein de perspectives pour penser les coopérations. Je vois les collègues là qui font des grands hochements de tête. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions, Monsieur Briand. Vous avez du temps, Bruno, pour les questions?
Oui, oui.
Bonjour, Michel Briand. J'anime un magazine qui s'appelle Innovation pédagogique sur l'enseignement. Enfin, pour un petit peu la diffusion des innovations pédagogiques et de l'enseignement à la transition dans l'enseignement supérieur. Et merci beaucoup, hein, pour votre présentation qui présente vraiment un très large contexte historique et nous fait comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est confronté à une urgence climatique et je dirais beaucoup d'enseignants dans les universités ou les écoles se posent la question en fait, de prendre en compte ces questions de la transition, du climat, de l'anthropocène. Et je voulais connaître un peu votre position, si vous en avez une, sur je dirais le partage des savoirs, le partage des cours pour effectivement qu'on puisse plus rapidement les approprier, créer une communauté comme essaye de faire un petit peu le groupe Anthropocène Fax à Grenoble.
Ok. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand je faisais les cours sur les questions de crise écologique, les étudiants disaient ouais, « ça va, il exagère, il est catastrophiste, machin, etc. » Maintenant, quand je fais ce genre de cours, les étudiants, ils ont tendance à dire ouais, « bah, ça va, on sait quoi. » Et donc, il y a eu quand même une diffusion d'un certain nombre d'éléments de références partagées. C'est-à-dire que l'idée qu'on vit une situation de contrainte écologique majeure, ça c'est accepté. Encore une fois, il y a 10 ans, je parle d'il y a 10 ans, hein, lorsqu'on évoquait le concept d'anthropocène, les étudiants nous regardaient et nous disaient « oui, so what, quoi. Bon, on ne voit pas tellement ni l'intérêt heuristique, etc. » on évoquait, alors moi je ne parle pas de réchauffement climatique en tant que tel. Pour moi, c'est pas la crise la plus importante qu'on est malheureusement en train de vivre. Je pense que la crise de la biodiversité, c'est l'intérêt de travailler avec les écologues. Je pense que la crise d'effondrement de la biodiversité est autrement plus importante que la crise du réchauffement climatique, puisque de toute façon, bon, le réchauffement climatique il est enclenché, nous devons nous adapter. On aura des possibilités, ça va être compliqué, ça va être violent, mais on aura une possibilité d'adaptation. Par contre, si on continue à effondrer, comme on construit actuellement la biodiversité, là on aura beaucoup plus de mal à pouvoir nous adapter à cette situation d'effondrement de la biodiversité. Et donc ce qui est intéressant quand on réfléchit pédagogiquement à la manière de produire des éléments d'information, c'est comment ces connaissances peuvent être des éléments ajustés à les situations de décision politique. Alors c'est peut-être un tropisme parce que moi je forme des gestionnaires de projets environnementaux globalement. Donc c'est de dire comment ce constat scientifique est objectivement réalisé devient un élément clé de la décision des politiques publiques. Et là, vous voyez, c'est pas évident quand c'est toujours intéressant quand les étudiants vont faire des stages, mais Gaël pourra peut-être en témoigner, quand les étudiants qu'on a formés à cette question de l'urgence immédiate des crises écologiques cumulées se retrouvent dans des cabinets conseils où on fait du greenwashing, il y a un décalage extrêmement important entre l'état écologique qu'on leur a présenté et la capacité des décideurs publics, des décideurs privés, et à incorporer ce niveau de situation de crise écologique. Donc moi, je pense qu'il faut accentuer ces questions-là. Et je trouve ça extrêmement intéressant, ce qui est en train de se produire dans une partie des étudiants, il ne faut pas exagérer non plus, hein. Quand on parle de génération climat, moi j'ai un peu de tendance à relativiser les choses. Il y a une partie des étudiants qui est extrêmement sensibilisée là-dessus, hein, le réveil écologique, l'appel à la réflexion de pas mal d'étudiants de grandes écoles, etc. C'est extrêmement important, qui est de dire il y a cette question climatique, entre autres, mais il y a cette question de la biodiversité, d'artificialisation des sols, d'acidification des océans, des migrations, de la pression démographique, hein, etc., qui sont des éléments d'interpellation importants. Donc, effectivement, oui, vous avez parfaitement raison, il faut que ça soit intensifié dans les espaces de réflexion pédagogique. Mais ce n'est pas gagné.
Merci.
Est-ce
qu'il y a d'autres questions ?
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. C'est Papa Guessau, doctorat en géographie. Et moi, je me suis intéressé plus sur la relation entre les politiques d'un côté et les scientifiques de l'autre. Parce que moi, quand je regarde, je vois deux mondes complètement différents, complètement déconnectés. Alors que face aux enjeux et les défis du moment, notamment les défis environnementaux, Je pense que ce serait nécessaire, voilà, d'intégrer ces deux mondes complètement opposés au vu, voilà, parce que d'un côté, il y a les scientifiques qui, voilà, qui se cantonnent à produire des connaissances, à faire des recherches sur les problématiques, voilà, actuelles, alors que de l'autre côté, il y a les politiques, voilà, qui un peu, entre guillemets, instrumentalisent, voilà, les grands concepts ou bien les grandes notions de développement durable d'un côté, de changement climatique, tout ça. Alors que, voilà, des recommandations ou bien des propositions concrètes des chercheurs sont à côté, mais voilà, il y a les conférences, des pourparlers un peu partout dans le monde. À chaque fois, on met en place un comité, voilà, des perspectives, voilà, sur les papiers, c'est propre, c'est correct, alors que l'application fait défaut. À côté, il y a des sommes faramineuses qui sont injectées chaque année pour faire face à ces défis environnementaux. À chaque fois, on voit que la planète continue à se dégrader. Voilà, on est dans un temps de catastrophe, je peux dire. Hein. Alors que toutes les conditions pour moi sont réunies pour agir concrètement, voilà, face à ces défis. C'est quoi le déclic? Selon vous, c'est quoi le déclic pour faire face à ces enjeux? Et je vous dis également qu'il serait temps pour les chercheurs, en fait, voilà, de s'interroger sur l'engagement scientifique qu'ils peuvent avoir face aux défis actuels. Parce que je vous dis que les chercheurs sont il y a un peu une sorte d'impuissance, de malaise, voilà, pour les chercheurs d'agir concrètement face à ces défis, alors que ça devrait forcément passer par les politiques publiques. Et souvent, les chercheurs ne s'intéressent pas à ces politiques. Souvent, ils se disent, voilà, étant chercheur, on doit être neutre, on ne doit pas faire de la politique. Est-ce qu'il ne serait pas temps, voilà, pour les chercheurs d'intégrer l'aspect politique avec un grand P, voilà, dans les démarches? Merci beaucoup.
Okay, merci beaucoup de questions. Beaucoup de choses. Alors, je ne pense pas que les deux mondes soient déconnectés. Ça dépend de quel monde scientifique et de quelles instances de décision publique et privée. Je reprends l'exemple d'AgroParisTech. Hein. AgroParisTech forme des personnes, des ingénieurs qui vont travailler dans le domaine de la décision publique et privée, dans l'agrobusiness. Hein. 60% des étudiants vont bosser dans l'agrobusiness. Les mondes scientifiques des sciences du vivant, agronomes, mais aussi écologues, etc., sont très impliqués dans la décision publique et privée. Et on va les retrouver dans beaucoup d'instances dans le monde privé, dans le monde public. Parce que ce sont des sciences qui développent des modèles appliqués. Et donc, il y a une interpénétration beaucoup plus facile parce qu'il y a une communauté d'intérêts partagés du côté des décideurs publics et privés, et du côté des scientifiques. Par exemple, vous savez, en tant que chercheur, je ne sais pas si vous avez à faire ça en tant que jeune chercheur, mais à AgroParisTech, on doit produire chaque année le bilan scientifique. En gros. Et quand je suis arrivé en 2014 à AgroParisTech, le premier indicateur qu'on nous demandait, c'était le nombre de brevets déposés. Le nombre de brevets déposés. Qu'est-ce que je vais déposer en sciences sociales, moi, comme brevet? Alors, pour rigoler, une année, j'ai essayé de déposer un cours en tant que brevet intellectuel en disant, voilà, après tout, c'est un cours, c'est un travail intellectuel qui est assez long, qui est assez compliqué. Donc voilà, bon, ça n'a pas été retenu, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que qu'est-ce que j'ai à faire, moi, dans le monde du brevet, entre guillemets. Or, pour mes collègues qui travaillent à AgroParisTech, la plupart, le brevet, c'est une source de valorisation scientifique, mais c'est aussi une source de revalorisation institutionnelle. Donc il faut bien voir, cette interpénétration, elle est très forte. Il y a aussi une partie de la communauté scientifique SHS qui est aussi impliquée, et je pense notamment dans la communauté des géographes, qui est beaucoup plus perméable aux politiques, aux sciences du gouvernement, si vous voulez. Hein, il y a une tradition de participation à la construction des politiques publiques, hein, les politiques de l'aménagement du territoire, qui ont mobilisé une grande partie des communautés des géographes. Ce n'est pas Denis Chartier et Étienne Rodary qui sont sollicités par le ministère de l'aménagement du territoire. Ça va être des chercheurs en géographie qui travaillent sur l'aménagement des fleuves, des choses comme ça. Donc il y a bien cette idée que De quelle communauté scientifique on parle et de quelle capacité de produire un savoir qui est ajustable et perméable aux intérêts de l'autorité publique et aux intérêts des porteurs privés. Et donc là, il y a effectivement quelque chose à voir sur cette perméabilité-là. Et donc, il y a une vraie question de légitimation des connaissances scientifiques. Qu'est-ce que vaut le travail sur la sobriété énergétique que je produis depuis quelques années ? Je vous donne un exemple. Hier, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale par un groupe de travail mixte Sénat-Parlement qui travaille justement sur les politiques de sobriété énergétique. Bon, très bien, ils m'interrogent et tout. Et je vois bien que mon discours, eh bien, c'est pas ce qu'ils attendent. Et à la fin, la députée qui est responsable du truc me dit « Oui, c'est vachement intéressant ce que vous me dites. » Et en général, quand vous dites à quelqu'un « c'est vachement intéressant », c'est qu'en décodé, bon, on n'a rien à foutre. Ce qui est vachement intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de technique sobre ? Et la députée de me donner un exemple de ce qu'elle considère comme quelque chose qui est vachement intéressant, c'est-à-dire qu'ils avaient auditionné un type qui a développé une start-up qui implante dans les pommeaux de douche une variation de couleur à partir du moment où vous avez dépassé le temps qu'on considère comme étant un temps de douche acceptable si vous êtes écologiquement responsable. C'est de 3 minutes en gros. Hein. Et donc, à partir de 4 minutes, hop, il y avait une petite variation de couleur qui vous rappelait que vous avez été en train de dépasser le temps écologiquement acceptable de la douche. Et donc, moi, elle me dit ça, je suis consterné en me disant, mais là, on en est encore là, on vit une crise écologique majeure et il y a des sites qui vont vous valoriser une variation de luminosité. Qu'est-ce que vous voulez qu'en tant que SHS, que je développe l'idée que les politiques de sobriété doivent être des politiques de renoncement drastique immédiat, qu'est-ce que vous voulez que je suis bankable par rapport à un type qui vient valoriser un truc sympathique comme la variation de couleur? C'est ça aussi la question de la valorisation de la recherche. Et donc, pour répondre au dernier point extrêmement important, est-ce qu'il faut être engagé en tant que chercheur? Alors moi, je considère, mais ça n'engage que moi, hein, qu'en tant que chercheur qui est confronté à la question écologique, on n'a pas le choix de l'engagement. J'ai écrit un article en 2003, « L'impossible extériorité du chercheur face à la crise écologique », qui était mon « coming out épistémologique ». C'est-à-dire que je peux m'extérioriser par rapport à la question sociale, je peux considérer que c'est un objet sur lequel je peux avoir une distance sujet-objet, hein, c'est le vieux fond de roulement épistémologique du chercheur, mais par rapport à la question écologique, je ne peux pas m'extraire. Je suis impliqué en tant qu'acteur et en tant que producteur de la question du dérèglement climatique et en tant qu'élément acteur de la solution du réchauffement climatique. Donc il n'y a pas d'extériorité, il n'y a pas de mise à distance possible. Et donc ça renvoie à une question épistémologique intéressante qui est celle de la neutralité axiologique, hein, la fameuse distinction rapport aux valeurs distance des valeurs, etc., de Max Weber, je me souviens plus du deuxième axe. Là, eh bien, ça interroge fondamentalement cette question-là. Et donc, moi, je pense, mais encore une fois, ça n'engage que moi, hein, que par rapport à ça, on ne peut plus avoir un positionnement épistémologique d'extériorité. On doit donc être nécessairement engagé. Mais un engagement, évidemment, il ne s'agit pas de devenir tous des... Thèse n'est pas une profession de foi, hein, pas plus qu'un tract militant, mais simplement, on doit avoir un positionnement scientifique responsable par rapport à ça. Est-ce que produire l'agriculture connectée est écologiquement responsable? À mon sens, je pense que mes collègues devraient s'interroger sur les conséquences de ce type de production de données écologiquement pas souhaitable. Et vous voyez, c'est une vaste réflexion qui n'est pas sympa. Je suis trop long dans mes réponses. Hein.
Ouais. Non, on est tous suspendus à vos lèvres, donc on vous pardonne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Oui, bonjour. Ma question concerne donc les tentatives d'évaluation monétaire, en équivalent argent, hein, des services écosystémiques, des ressources naturelles ou même des ressources dites sociales. Alors, c'est pas ma spécialité, donc je ne sais pas comment le formuler, mais c'est-à-dire les savoirs, les modes d'organisation de certaines sociétés. pour aider les politiques publiques à prendre des décisions, faire des choix sur, par exemple, le développement d'une activité économique ou l'aménagement d'un territoire. Que pensez-vous de cette stratégie, justement, de monétisation de choses qui, par définition, ne le sont pas? Ça, c'est une question fermée, là, que je vais poser. Mais bon, voilà.
Je vous rejoins. Hein. C'est en fait, c'est un piège dans lequel on est tombé en tant que chercheur des sciences sociales, essentiellement des économistes, des géographes, des urbanistes, les sciences de l'aménagement d'une manière générale. Et moi, je l'ai vu apparaître au sein de l'ITECOP, où on a vu une pression très forte des aménageurs privés qui réclamaient les conditions d'une évaluation objective de l'impact d'une infrastructure. Et on a eu un débat extrêmement intéressant au sein du comité scientifique qui rejoint parfaitement les termes de votre question, qui était un débat, qui est un vieux débat épistémologique, hein, qui est lié aux éthiques environnementales, c'est la question de la valeur intrinsèque. Est-ce que on peut se permettre de porter atteinte à un écosystème au nom de la valeur spécifique de cet écosystème? Et donc, la question des services écosystémiques, c'est vous faites un calcul d'opportunité, finalement, de ce que vous allez détruire par rapport aux services que produit cet écosystème. Et il y a une réflexion extrêmement intéressante. Qu'est-ce que vous faites des écosystèmes qui ne servent à rien, entre guillemets, ou c'est-à-dire où la valeur n'est pas suffisamment probante? Et ça, c'est une vieille discussion aussi des éthiques environnementales. Je donne un exemple qui est un débat qui s'est traduit aux États-Unis autour du Devil All Pupfish. Excusez mon accent anglais pitoyable, mais Anne-Gaëlle connaît ma capacité à m'exprimer en anglais. Le Devil All Pupfish, c'est un petit poisson qui fait 1,5 mm, qui vit dans des mares d'eau salée dans le désert californien. Qu'est-ce que fout de ces poissons dans le désert californien? Eh bien, avant, il y avait la mer s'est retirée, et il y a eu des poches résiduelles d'eau extrêmement salée, hein, par effet de d'évaporation, et on a trouvé des petits poissons qui vivent là-dedans et qui sont adaptés à une eau extrêmement salée. Donc, les chercheurs ont étudié comment ce poisson a pu se développer dans un environnement salin aussi important. On a fait des recherches scientifiques, et on n'a pas trouvé d'utilité à ce foutu poisson. Et donc, on a décidé de faire des aménagements de routes. Il y a même un golf, un projet de golf en plein milieu du désert. C'est pour dire que vraiment, on n'en sortira jamais, etc. Et il y a Monsieur Pfister. Excusez-moi, je suis un peu dyslexique, donc il y a des mots que j'ai du mal à prononcer. Pfister, c'est P-S-I-F-T-E-R. Pas l'idée de s'appeler comme ça. Monsieur Pfister, qui a décidé de se battre pour préserver ses poissons. En disant, à un moment donné, il en avait marre de répondre à chaque fois qu'on lui disait « Mais pourquoi vous vous battez pour ces poissons ?» etc. Il a eu cette réponse géniale. « Et vous, à quoi êtes-vous bon ?» Good, en anglais. « À quoi êtes-vous bon ?» Autrement dit, à quoi vous êtes bon en tant qu'individu? Est-ce que vous faites le bien? Est-ce que vous faites le mal? Et à quoi vous servez? Good, c'est aussi ce qui sert, ce qui est utile, etc. Et donc, lui, sa réponse était de dire « Mais là, indépendamment de ce à quoi on sert, on est. » Et donc, si vous reconnaissez une valeur à chaque individu humain, pourquoi vous ne reconnaissez pas une valeur à ce poisson en particulier? Et il est allé jusqu'à devant la Cour suprême des États-Unis, il a gagné son procès. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans cette question-là. Quand vous développez les notions de services écosystémiques, les compensations, etc., bref, les évaluations monétaires, vous trouverez toujours un moyen de calculer une valeur quelconque. Mais quand vous raisonnez sur la valeur spécifique, la valeur intrinsèque, la valeur en soi, eh bien, vous accordez une identité particulière à cet écosystème, à ce poisson, à cet oiseau, à ce scarabée, etc. Et donc, vous changez le rapport entre les individus. Et là, vous soulevez une question épistémologique extrêmement importante, c'est qu'est-ce qui est substituable? Si vous considérez qu'on peut calculer la substitution, eh bien, le vivant perd systématiquement, parce qu'il y aura toujours une raison objective à détruire le vivant. Des raisons d'égalité sociale, des raisons de développement contre la pauvreté. Je prends les exemples qui sont souvent mobilisés pour justifier le truc. Le développement économique, c'est de l'emploi. L'emploi, c'est le revenu. Le revenu, c'est l'intégration, la dignité des individus. Et si vous vous opposez à ça, les zadistes, eh bien vous êtes contre le progrès, vous êtes des agents de la réaction, etc. Donc c'est vraiment une question épistémologique extrêmement importante que vous soulevez. À titre personnel, je n'ai pas la réponse, fondamentalement, mais je vois bien la pression économique qui a instrumentalisé cette notion de service écosystémique, et vraiment l'exemple de Dikekop est très clair là-dessus.
D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, si, il y a deux autres questions.
Bonjour, monsieur Villalba. Je suis allé tomber en vrai docteur en géographie, j'étais spécialiste aussi avant. Mais j'ai une question juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Mais du coup, est-ce que tout compromis engendre forcément de la substituabilité? Parce que typiquement pour un projet justement dans la valeur intrinsèque, etc., enfin, si on considère qu'il y a une valeur intrinsèque ou une valeur monétarisable, est-ce que mettre les deux éléments côte à côte pour les évaluer, ça renverra encore une fois à la valeur, mais pour les comparer, est-ce que c'est accepter une substituabilité de l'un par rapport à l'autre, ou c'est si finalement, est-ce que c'est pas proposer une négociation entre les deux éléments pour trouver un compromis un peu type de la justification?
Merci, très très bonne question. On voit que vous avez été bien formé à ce test. Alors, vous avez l'optique stratégie patrimoniale que vous avez vue avec Ambroise de Montbel. L'audit patrimonial, c'est un outil de production du compromis. Et c'est un outil extrêmement intéressant qui considère qu'on peut négocier les intérêts des acteurs pour parvenir à une position commune, un patrimoine commun, une position commune. À condition, et ça c'est extrêmement important et c'est aussi un élément de réponse, que les acteurs que vous mettez autour de la table soient considérés comme des acteurs équivalents. Or là, en tant que spécialiste de sciences politiques, j'ai pas vraiment l'impression que le vivant est considéré comme un acteur équivalent dans les processus de négociation. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que nous nous substituons à des acteurs pour leur attribuer une voix, autrement dit une valeur, à travers des mécanismes uniquement monétaires qui nous intéressent, nous, c'est toujours la valeur instrumentale hein, qui se construit, au détriment de la spécificité même de l'expression de ces non-humains. Et donc vous voyez, c'est des questions extrêmement intéressantes, c'était comment vous construisez une représentation autonome des non-humains. Alors, il y a beaucoup de travaux, ce qu'on appelle la démocratie écologique, qui font des propositions là-dessus. On en est loin encore. Hein. On voit bien l'invisibilisation d'un certain nombre de catégories sociales. C'est encore pire pour les catégories du vivant. Il y a un indicateur qui, moi, me paraît extrêmement important sur cette question clé que vous avez évoquée, la question de la substituabilité. Hein, substituabilité, c'est la question des irréversibilités. La question, ce n'est pas la valeur en soi, c'est la question de la valeur irréversible en tant que telle. C'est-à-dire, c'est que vous pouvez porter atteinte à certains écosystèmes s'ils ne sont pas de nature irréversible. C'est-à-dire qu'ils ont une valeur relativement banale. C'est ce qu'on appelle la biodiversité quotidienne, hein, la biodiversité classique. Dès lors que vous portez atteinte à quelque chose qui est de l'ordre spécifique, eh bien vous engagez une réflexion extrêmement importante, qui n'est pas simple. Je vous donne l'exemple de l'éléphant, j'adore les éléphants. C'est 2050, hein, la disparition des éléphants. Voilà. On sait qu'à ce tournant-là, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils n'ont plus suffisamment de patrimoine génétique, ils n'ont plus suffisamment d'espace, etc. Et il y a une vraie question. Comment on préserve l'intégrité physique de l'éléphant en Afrique? Qui va décider de cette intégrité, de cette valeur de l'éléphant? Je vous invite à lire le livre de Guillaume Blanc et celui d'Étienne Brodary hein, sur la construction de parcs africains. Qui décide au nom des peuples autochtones? Qui décide au nom de la capacité du développement des populations locales par rapport au droit de l'éléphant à exister? Eh bien, c'est des conflits extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la valeur de l'éléphant doit être préservée, ça c'est mon point de vue. Mais est-ce que les populations locales sont dans un même rapport de préservation de cet animal? Après tout, nous, on a dégommé tous les animaux sauvages hein, pour nous aménager. On a dégommé les ours, on a dégommé les renards, on a dégommé les loups, on a dégommé voilà, pour préserver le pastoralisme, l'agriculture intensive, etc. Au nom de quoi on va décider, c'est ce que dit Guillaume Blanc, la préservation d'une espèce d'Éden africain qui serait celui de l'espace sauvage. Bah, c'est une vraie réflexion, vous voyez, ça emboîte le pas de votre idée. La question c'est, bah oui, ok, mais à partir du moment où on va dégommer les éléphants, bah c'est un peu dommage, c'est ce que dit de manière très bien Romain Gary, est-ce que c'est mieux de vivre dans un monde où résonne le pas de l'éléphant? Vous voyez, de manière assez romantique, moi je considère que oui. Et d'une manière assez pragmatique, avec une lumière d'habitants, bah, le pas de l'éléphant il est quand même assez mal barré.
Je crois qu'il y avait une dernière question dans la salle.
Oui, bonjour, Nicolas Baptiste. Donc je suis doctorat donc en sociologie du sport et de l'environnement. Donc merci pour votre intervention. Et moi, je voudrais revenir sur notamment les questions de financement et de demandes sociales et d'actions, en fait, d'actions publiques. Moi, dans le cadre de mes recherches, donc j'ai un double financement de la région PACA institutionnelle qui, en l'occurrence, a quand même pas mal d'argent hein, à mettre dans le financement. J'en profite pour les remercier, c'est super sympa. Et j'ai une autre partie de mon financement qui est privée, donc une association sportive. Moi, je travaille dans les Hautes-Alpes, de loi 1901, et je suis pris un petit peu en étau, ou en tout cas, je me pose des questions sur la posture en tant que jeune chercheur, de doctorant, où je fais de l'observation participante au travers de cette association. Et comment un petit peu je me positionne au sein de cette association. Entre autres, je fais partie du bureau exécutif de cette association où tout le monde est convaincu, sur les acteurs terrain, les éducateurs, les dirigeants, même les pratiquants de l'urgence écologique, de ces enjeux environnementaux. Et pour autant, ils nous disent, nous, on a assez peu d'argent. On est pris au quotidien en fait, dans des urgences où c'est d'un côté pratique, on ne va pas avoir assez de matériel, il va falloir qu'on organise des déplacements qui sont très onéreux. Alors, la question écologique, oui, mais ce n'est pas notre priorité, ou du moins, comment on fait? Donc, moi, la question, c'est la posture en tant que chercheur, du coup, jeune chercheur, comment, sans être donneur de leçons, faire passer un petit peu ces messages et donner des pistes d'action, quoi. C'est d'un point de vue un peu stratégique.
Ok. C'est plus compliqué, je peux pas vous dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Ça, c'est l'idée qu'il y aurait une boîte à outils adaptée à chaque situation chercheur. En fait, il y a une tradition sociologique et celle qu'on appelle l'intervention sociologique. Est-ce que c'est le rôle du chercheur d'interpeller les acteurs avec lesquels on travaille? C'est Alain Tourelle qui a développé ça au début des années 70. Considérait que le rôle du chercheur, c'était d'interpeller les acteurs avec lesquels il travaillait. C'est-à-dire, à un moment donné, de montrer que la stratégie de développement, la stratégie d'action, la stratégie de mobilisation mettait dans l'oubli, avait tendance à relayer un peu un certain nombre de questions. Et lui disait, il faut que l'expertise, si vous voulez, du chercheur serve aussi au groupe avec lequel on travaille. Ce courant, finalement, il a perdu de son intensité sociologique au profit d'une vision beaucoup plus distante. L'idée que le chercheur n'avait pas trop à intervenir dans les dispositifs de recherche qu'il étudiait, etc., et qu'il était simplement un observateur distant qui devait minimiser ses interactions, etc. Alors, c'est très compliqué parce que votre posture, vous êtes à la fois financé... Est-ce que c'est une thèse CIFRE ou c'est un programme de recherche? Non,
c'est dans le cadre d'un dispositif de la région PACA qui s'appelle Emploi Jeune Doctorant. Donc, j'ai un financement sur 3 ans avec un cofinancement d'un partenaire socio-économique pour reprendre leur terme.
On est plutôt sur une posture de thèse de CIFRE, classiquement, c'est-à-dire une coopération entre un acteur privé et un acteur public. Donc, Il y a cette question du travail effectif à fournir. Et tous les doctorants que j'ai encadrés qui avaient des tasses CIFRE, c'était l'idée que lorsque vous êtes dans un environnement professionnel, le temps de travail que vous fournissez à la structure, eh bien vous répondez aux consignes professionnelles de la structure. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous ne participez pas à un élargissement des propositions d'action. Et typiquement, dans votre cadre, moi, je crois qu'il faut insister sur votre autonomie d'action. Proposition théorique, proposition d'action, proposition d'interpellation, bien évidemment, sans faire en sorte que vous vous positionnez en tant que, comment dire, le type qui sait, qui va expliquer aux acteurs. Les acteurs ont autant d'expertise que vous sur les secteurs dans lesquels ils interrogent. Mais typiquement, par exemple, là, les stratégies de mobilité que vous évoquez dans les centres sportifs, ce qui est une vraie difficulté, hein, ben, la question, c'est de savoir comment on peut, par exemple, mettre en place des politiques de compensation, des politiques de coopération avec des acteurs qui vont être plus impliqués dans les causes environnementales, etc. Donc, il y a des tas de stratégies de coopération, là aussi, à développer, hein, puisque c'est le mot-clé de vos journées. Par contre, y a bien ce point, à un moment donné, moi je plaide plutôt en tant que chercheur, hein, dans l'idée des points d'interpellation. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait un programme de recherche sur Roubaix en transition, avec des populations très très précaires, très en difficulté, avec des questions de racisme local, etc. Et c'est vrai que parfois la question de la biodiversité, c'était le cadet de leurs soucis. Et constamment, dans les réunions publiques, je revenais avec la question de la biodiversité. Okay ? Et c'était extrêmement, parfois, amusant, lorsque des gens expliquaient qu'ils n'avaient pas de quoi manger, etc., et que les fins de mois étaient compliquées. Et puis vous, le chercheur, là, le nanti, hein, le bobo, vous veniez avec ces questions de la biodiversité. Mais la question, c'est comment faire le lien entre ces deux questions qui sont connexes. La crise de la biodiversité et la crise sociale que l'on vit, eh bien, il y a des éléments connexes, etc. Et ça, moi, je pense que c'est la question qui était tout à l'heure, la responsabilité du chercheur de créer ces passerelles, de créer ces espaces de médiation. Il y a des points communs, il y a des intérêts communs, il y a des espaces de négociation communs entre les vivants humains et les vivants non humains. Et ça, c'est, à mon avis, le rôle du chercheur de pouvoir constituer ces passerelles. Alors, les outils méthodologiques, il faut les créer. Là, je vous rejoins parfaitement. On ne sait pas toujours faire ce lien. Il y a des outils de sensibilisation, il y a des outils de réflexion, etc. Et je pense que ça, c'est le rôle du chercheur. Anne-Gaëlle a très gentiment dit que j'étais un passeur, selon l'expression de Marcel Jolivet. Je trouve que c'est un très bel hommage que vous m'avez fait là, parce que j'ai une admiration sans bornes pour Marcel Jolivet, ce livre sur les passeurs de frontières. Je trouve que là, le rôle du chercheur, c'est ça. C'est de dire, oui, mais attention, il y a ça aussi. Et après, les acteurs, ils font ce qu'ils en veulent. Hein. Mais en tout cas, notre responsabilité, c'est de ne pas faire comme si on était hors du monde. Et je trouve que vous avez du courage de travailler en sport, en environnement, surtout en ce moment, avec ce qui se passe au Qatar. Alors, en tout cas, merci de vos questions.
Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose de clôturer sur cette dernière question parce qu'il va falloir qu'on passe à la suite de notre programme, même si je pense qu'on aurait encore envie de discuter avec vous. En tout cas, je vous remercie infiniment parce que moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est que quand on parlait des moments d'ouverture, de coopération et du fait qu'on avait envie de faire ce colloque aussi parce qu'on n'avait pas forcément ces espaces pour penser ce qui nous arrivait aussi en tant que jeunes chercheurs, on voit toute la dimension. Bien sûr, il y a ces espaces institutionnels qui s'ouvrent et qui dépendent pas de nous, qui sont matériellement là avant nous, mais on voit qu'il y a aussi une question de proaction et de se créer ces espaces et nos lieux de travaux, etc. C'est à nous de créer une communauté pour pouvoir redéfinir ce que c'est que notre métier. Donc je trouve que c'était c'était assez enthousiasmant. Donc merci beaucoup.
Et puis, c'est ça,
merci.